Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halud Mouni.
Chienne Berry.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani, bonsoir et bienvenue à ce grand dialogue. Justice, les arrestations se multiplient dans le pays et le parquet de la commune 4 du district de Bamako annonce qu'il restera en proactivité pour que nul ne surprenne la tranquillité de l'ordre public. Alors, par rapport à ces arrestations, nous avons invité trois personnes pour donner leur point de vue, un regard d'homme de droit sur ces arrestations. Il s'agit de Moussa Guindo, magistrat, Brahima Konaté de l'Association malienne de défense des droits de l'homme et Ibrahim Ben Mamata Touré, juriste. Je suis Mohamedou Touré, bienvenue à toutes et à tous.
Le Grand Dialogue.
Concernant les dernières arrestations, on peut citer le cas de Moussa Diarra, Ibrahim Maïga et Adama Diko du regroupement Yerewoloton, poursuivis pour incitation à la violence et menace. Un d'entre eux est placé sous mandat de dépôt et Amadou Dipap Diallo du même regroupement est aussi poursuivi et placé sous mandat pour injure sur fond de haine manifeste proférée par publication sur sa page Facebook. Il y a également le cas de Étienne Fakaba Sissoko, poursuivi pour des propos tendant à la stigmatisation ou la discrimination régionaliste, ethnique ou religieuse de nature à dresser les citoyens les uns contre les autres et à troubler l'ordre public par usage des technologies de l'information et de la communication. Étienne est également poursuivi pour présomption de faux et usage de faux diplômes universitaires. Brahima Konaté, vous êtes membre de l'Association malienne de défense des droits de l'homme. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur ces différentes arrestations en cours dans le pays?
Très bien, merci beaucoup. Je remercie les téléspectateurs. Et merci d'avoir posé la question. Alors, nous avons pris acte des chefs d'accusation retenus contre ces personnes-là. Et nous disons simplement que nous sommes dans un état de droit. Et par conséquent, nous devons laisser la justice suivre son cours pour que, alors, le parquet finisse sa poursuite et que le juge jugeant se prononce sur la véracité des chefs d'accusation qui sont portés sur les personnes incriminées. Voilà.
Est-ce le même regard que vous avez, Moussa Guindo, en tant que magistrat?
Merci, je salue notre spectateur, ceux qui nous écoutent. Monsieur Touré, vous avez touché la plaie. Nous sommes en démocratie. Quand on parle de démocratie, il y a le droit de l'homme. Quand je suis à côté de M. Konaté, il m'a mis à l'aise. Ils disent, ils vont laisser la justice faire son travail. Le regard est très clair. Tant que nous sommes dans cet état, il faut mettre de l'ordre. Parce que vous venez de citer des infractions aujourd'hui, c'est ça qui vaut au trouble de l'ordre public. Personne n'est au-dessus de la loi. Bien vrai que les gens pensent que c'est de la fiction, mais c'est une réalité. Et la justice est là pour régulariser. Je pense que tout ce que vous venez de citer, ça fait froid au dos. Je me demande si demain, comment on va éduquer nos enfants. Parce qu'avec les réseaux aujourd'hui, chacun se lève un beau matin, dire ce qu'il pense, et la justice est là pour régulariser. Voilà.
Et je précise que ces accusations que je viens de citer sont du parquet de la commune 4 du district de Bamako. Mais est-ce que vous pensez que la justice malienne, elle est indépendante pour faire ce travail-là?
Bon, l'indépendance, c'est l'aspiration de tout le monde. Moi, c'est qu'en tant que magistrat, je pense que l'indépendance, c'est au niveau de l'esprit. C'est la personnalité du magistrat. Bon, quand on parle d'indépendance au niveau du parquet, le parquet est hiérarchisé. Ils ont un chef. Le chef, c'est un non-policier, peut-être le ministre de la Justice. Bon, en réalité, dans ce cadre-là, ce qu'on peut éviter ou ce qu'on ne peut pas encourager, ça, c'est d'avoir une justice sélective. Que tout le monde soit au même pied d'égalité, sanctionné et poursuivi aux yeux de la loi. Et les avocats sont là pour dénoncer. Les associations des droits de l'homme sont là pour dénoncer. Parce que le juge a le dos large. Le juge, son travail est connu de tout le monde. Et le juge doit être fier parce que tout ce qu'il fait, c'est d'appliquer la loi. Et pour vérifier tout ça, c'est très simple. Parce que nous avons des codes, nous avons des cadres légaux par rapport à ça. Et aujourd'hui, le vent qui souffle, c'est le vent de contestation. Nous sommes dans une situation très difficile. Il faut que la justice joue son rôle. Et je l'ai dit souvent dans mes débats, les institutions sont en genoux. Mais la seule institution aujourd'hui, c'est la justice. Et voilà, aujourd'hui, il y a tellement de publicité autour de la justice. À chaque fois, quand on touche à un individu, les gens pensent que c'est trop. Mais la réalité, c'est de condamner, comme mon voisin l'a dit, il faut poursuivre, il faut juger, il faut condamner. Et je pense qu'au bout du rouleau, nous allons se rendre. Mais ce qui est sûr, aujourd'hui au Mali, nous avons une justice à respecter, une justice à respecter, une justice qui doit faire son travail. Parce que demain, l'histoire va nous interpeller. Nous sommes sous serment. Notre travail est lié uniquement dans un cadre social et dans le cadre légal.
Et nous allons y revenir. Vous avez parlé de justice sélective parce que certains hommes de droit pensent que c'est le cas en ce moment. Mais nous allons écouter d'abord le point de vue de Ibrahim Ben Mamata Touré sur ces différentes arrestations qui ont eu lieu dans le pays.
Merci d'abord. Je suis vraiment heureux d'être avec des aînés. C'est une belle opportunité pour moi. Je suis le même ordre d'idées. Nous sommes en démocratie. En démocratie, il y a des libertés et la liberté aussi a des limites. Donc le parquet a le droit de poursuivre. Maintenant, à l'issue du procès, si c'est fondé ou pas, on le saura. Donc en démocratie, on espère que le droit sera dit en fonction des textes, comme le dit mon aîné. Donc voilà, il faut aussi tirer la sonnette d'alarme en se focalisant sur l'aspect qui fait qu'il y a autant d'arrestations, c'est les réseaux sociaux. L'utilisation de ces réseaux sociaux, nous ne cesserons de le dire, il faut mettre la limite, il faut connaître la limite entre ce qui est à publier et ce qui n'est pas à publier. Et beaucoup tombent à ce niveau-là, ce qui amène qu'il y a une croissance par rapport aux poursuites, aux arrestations. Donc, il faut mettre aussi un peu de pédagogie. Je pense que l'aîné le fait très bien. Chaque fois, elle est sur les plateaux. Donc, je pense que nous sommes en démocratie. On espère que la justice fera son travail.
Est-ce que cela veut dire que, par rapport aux opinions à exprimer sur les réseaux sociaux, les gens doivent faire attention à ce qu'ils disent, même quand il s'agit de leurs propres opinions?
Extrêmement attention, parce que la liberté d'expression est là, mais elle est encadrée. Il ne faut pas sortir de la limite prévue par la loi. C'est ce qui amène le problème. On ne peut pas dire tout ce qui nous plaît. Lorsqu'on est dans une société, lorsqu'on est en démocratie, en état de droit, on se doit de respecter les normes édictées dans ce sens. Donc beaucoup ne connaissent pas, malheureusement, les limites. C'est ce qui amène ces travers, ces arrestations, malheureusement.
Et Moussa pourra nous parler de cette liberté d'expression et de ses limites. Mais en attendant, on va demander à Brahima Konaté, aujourd'hui, ces personnes qui sont arrêtées, est-ce que les arrestations se font dans le respect des droits de ces personnes-là?
Bon, à l'état actuel, il nous est difficile de nous prononcer sur le respect. Parce que nous apprenons, comme tout le monde, sur les réseaux sociaux, que telle personne a été arrêtée. Maintenant, la loi quand même dit que chaque personne a droit à la présomption d'innocence. Tant que sa culpabilité n'est pas établie, il est considéré comme innocent. Nous pensons que ces personnes-là qui sont entre les mains de la justice aujourd'hui bénéficient de ces présomptions d'innocence-là et qui n'ont pas suivi de sévices et de traitements cruels inhumains dans leur détention. Donc si ces conditions sont respectées, oui, d'accord, on va dire que c'est respecté, mais pour autant que nous ne sommes pas vraiment au courant des réalités, des conditions de détention de ces personnes-là. Voilà.
Pourtant, ces arrestations qu'on a citées au début sont précédées par d'autres arrestations, notamment d'hommes politiques qui ont fait des revendications par rapport à leur état de santé, par rapport à leurs conditions également. Est-ce que vous avez eu des informations concernant la situation de ces différentes personnes?
Oui, particulièrement concernant l'homme politique nommé Premier ministre Soumil Boué Maïga, nous avons été saisis par ses parents concernant sa situation de santé et les besoins d'être soumis à un traitement adéquat. Et nous disons que le droit à la santé est égal pour tout le monde, quel que soit le statut qu'on peut avoir. Une fois que la santé est mise à mal, alors la personne a droit de se faire soigner par le médecin qu'il souhaite. Maintenant, là également, nous savons que les mesures en la matière sont très encadrées et nous demandons de voir ce qui est possible pour que cette personne-là puisse bénéficier des soins adéquats.
Voilà. Alors, Moussa Guindo, aujourd'hui, quand on constate la multiplication de ces arrestations, qu'est-ce qui a changé, au fait, entre les précédentes années et aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que ce n'est pas le même régime? Est-ce que ce sont les hommes de droit qui ont changé? Qu'est-ce qui pousse à ce changement, à ces arrestations qu'on remarque de plus en plus aujourd'hui?
Je trouve l'un est là. L'un est là. Le droit évolue, l'homme évolue. Dans les années, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Les gens se limitaient. Même dans les temps, il n'y avait même pas de journaux. Voilà, ça évolue avec le temps.
Mais il y a 5 ans, il y avait toujours Internet.
Effectivement.
Et les réseaux sociaux.
Effectivement. On cherchait des alibis pour arrêter tous ceux qui violaient la loi en ce temps. Mais aujourd'hui, en ce moment, il n'y avait pas de loi. Et il y a une loi qui a été créée.
Depuis
la loi cybercriminalité. Ça, c'est récent, il y a quelques 2 ans. Et c'est cette loi qui est en application selon l'évolution de la situation. Et les réseaux aussi, il faut contrôler. Parce que c'est comme on appelle un feu de brousse. Si ça s'allume, ça prend tout le monde. Bon, c'est là que nous avons pris la décision. Si je dis nous, je parle des hommes en robe noire qui sont des magistrats. Et à travers ça, nous avons organisé des formations. Formé 50 magistrats en 2 reprises, 100 magistrats au niveau de Bamako, et ça continue dans les régions. Et à travers ça, ce qui a donné l'engouement à ces arrestations, que les gens se rendent compte, parce que l'information aujourd'hui est partagée. Chacun dans son petit téléphone a des informations à la minute. Et au niveau de cette loi, il y a l'article 2 qui donne l'opportunité à tout procureur, que ce soit à Kidal, que ce soit à Bayangara, ou bien au niveau de Kai, de poursuivre n'importe qui ose violer.
Donc il n'y a pas une question de juridiction
de compétence.
Toute personne qui est à la commune 4 peut être interpellée par le parquet de la commune 6,
et je profite pour saluer le courage du procureur de la commune 4. Tous les procureurs du Mali peuvent agir comme ça, parce que la loi les donne déjà. Et en plus de ça, il y a la dénonciation. Il y a des plaintes personnelles. Et voilà ce qui a donné de l'ampleur aujourd'hui à ces arrestations. Et qu'on évite aussi de lier ces poursuites, ces arrestations à des personnes. Parce qu'il s'agit de Guino ou il s'agit de Touré. Non, personne n'est au-dessus de la loi. Bon, vous vous rendez compte, si c'est pour quelqu'un qui est connu, qui est politique ou bien qui est leader associatif, ça met tout le monde en branle. Les gens se posent la question. C'est là aussi qu'on doit saluer la justice. Et voilà, c'est ce travail-là qui se passe. Mais la réalité aussi, il faut que les Maliens se rendent compte que ce pouvoir de la justice doit être respecté. Bon, aujourd'hui, les gens puissent penser que nous avons des mandats faciles. Nous avons la légèreté au niveau de nos enquêtes. C'est pas tout est dû à la situation. Mais ce qui est sûr, je donne la garantie.
Est-ce le cas? Avez-vous des mandats faciles?
Non, ce n'est pas le cas, parce que les gens trouvent, parce que c'est votre question. Vous pensez que c'est aujourd'hui.
Je ne pense pas, je posais une question par rapport aux interrogations.
Non, le mandat est un mandat. Le mandat doit être donné quand il doit être donné. Et c'est quoi un mandat? C'est de donner l'ordre à tous ceux qui détiennent un pouvoir de garder quelqu'un qui a violé la loi. Et cela est très clair.
Même s'il y a la présomption d'innocence et qu'on ne sait pas.
La présomption d'innocence, je veux dire quoi, M. Touré? Tous ceux qui sont arrêtés jusqu'à la condamnation, il faut faire extrêmement attention. Et ça doit être respecté.
Oui, mais
ça,
quand
c'est
vous
le
dites qu'il donne le droit de garder quelqu'un qui a violé la loi, ça
mais
veut
ça,
dire
c'est
que
par
c'est
aux
sûr
enquêtes.
Déjà que la
c'est
personne...
C'est par rapport aux enquêtes. Parce que pourquoi on prend quelqu'un et on le met en prison? C'est par rapport aux enquêtes et aux indices. Parce qu'aujourd'hui, sa liberté peut mettre en branle la procédure, peut compliquer la procédure. C'est ça. Et les droits de l'homme sont là, les avocats sont là. Parce que c'est leur droit. Mais voilà, aujourd'hui même à la télé, le fait de montrer les prisonniers, les voleurs à la télé, sans les masquer, c'est de violer cette loi. Et le procureur a dénoncé à son temps, au niveau de la cour d'appel, le procureur général. C'est ça le Mali. Et s'il y a une loi, il faut l'appliquer. Mais sans, parce que la loi n'est pas, ça ne vise pas une personnalité. C'est tout le monde. Mais ce travail aujourd'hui de la justice, je pense qu'on doit être fier. Mais que la justice aussi se rende compte que... Elle a un rôle à jouer. Et ce rôle, c'est quoi? C'est la quiétude. Mais la réalité, aujourd'hui, on doit sensibiliser. On doit faire comprendre aux gens les dangers qui courent.
Justement, parce on que... reviendra à cette sensibilisation,
voilà.
Notamment
Attends,
concernant la
par...
loi,
voilà.
Concernant la cybercriminalité.
Je veux par rapport à la liberté. C'est une question
liberté
de limite.
On
voilà.
expliquera ça tout à l'heure. Mais déjà, merci. Ibrahim, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la justice a le mandat facile, comme le soulignait tout de suite Moussa?
Bon, la loi donne la latitude au procureur de délivrer des mandats. Mais eu égard au contexte malien, moi, je suis un peu d'avis que le mandat est un peu facile, parce que lorsqu'on voit les chiffres annoncés par rapport à l'abondance des prisonniers dans nos prisons, qui sont vraiment trop, et quand on augmente ces mandats délivrés comme ça, moi, je me dis qu'il faut trouver une autre formule pour atténuer cela, afin qu'il y ait un équilibre, afin que les prisons soient encore plus désengorgées. Donc au Mali, le principe dans la pensée collective, lorsqu'il y a une affaire judiciaire, tout ce qui peut faire l'effet ou bien tout ce qui peut faire craquer l'autre, c'est de l'amener en prison. Or, au pénal, le principe, c'est la liberté. Pour que quelqu'un puisse aller en prison, ce n'est pas sur la base d'indices. Les indices, c'est trop léger pour aller en prison. Donc le mandat, moi, aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai dénoncé. J'ai dit qu'il y a une certaine facilité de délivrance des mandats eu égard à un certain contexte. Il faut essayer de trouver un juste milieu pour trouver d'autres astuces sans que tout le monde se retrouve en mandat de dépôt. Et souvent, les mandats, c'est vrai que la loi n'encadre pas à un certain niveau la durée. Pour des délits mineurs, entre guillemets, mettre un mandat de 3 mois. Moi, je me dis que le ministère, pas que les magistrats, mais cette fois que le ministère de la Justice opte pour des comparutions directes sur certaines affaires, les délits mineurs et autres qu'on peut vite évacuer. Mais cela aussi ne relève pas de la compétence proprement dite des magistrats, mais du ministère qui instruit cela. Donc je suis un peu dans cet ordre d'idée qu'il faut revoir la délivrance des mandats en République du Mali en 7 ans.
Quand vous parlez de désengorger les prisons, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de violation des droits des prisonniers du moment où il y en aurait trop dans les différentes prisons?
Oui, parce que le frère est là, lui, il peut en dire plus que moi. Donc le prisonnier aussi a ses droits. Entasser des gens dans des conditions de vie, entre guillemets, quasi inhumaines, ça aussi, ça relève de quelque chose. Et l'État, le ministère de la Justice est interpellé à ce niveau. Bon, on espère que la nouvelle prison, beaucoup de personnes seront transférées là-bas pour désengorger la MCA d'ici et d'autres prisons. Donc c'est un travail colossal. Des efforts sont en cours et on se doit de les encourager. Donc voilà.
Est-ce que vous pensez aussi, Brahima Konaté, que les mandats sont faciles aujourd'hui?
Merci beaucoup, Touré. Mon frère va souffrir que je lui dise qu'effectivement, nous constatons que les magistrats ont un peu la main légère sur les mandats. Et automatiquement, aujourd'hui, les magistrats dessinent les mandats contre des personnes sur des affaires qu'on aurait pu traiter autrement. Et c'est regrettable parce que, comme il a dit, la détention, c'est vraiment l'exception. Et la liberté étant le principe, on aimerait que les juges ne perdent pas de vue ce principe-là afin de considérer que les gens sont mieux ailleurs qu'en prison. C'est vrai, s'il y a des indices concordants qui pèsent sur une personne ou si la personne constitue une menace ou une condition de soudoiement des témoins, on peut penser qu'en le mettant en prison, on sauvegarderait les intérêts. Mais de façon systématique, si on doit délivrer des mandats contre des personnes pour des affaires qui n'en vaut pas la peine, alors ça fait grincer les dents. Ça fait vraiment grincer les dents. En cela, nous voulons vraiment que les magistrats repensent leur façon de traiter les individus qui se présentent devant eux afin qu'ils ne soient pas amenés à décerner de façon systématique ces mandats de dépôt. Et très souvent, quand il y a des mandats de dépôt, des personnes sont à dessein oubliées au niveau des prisons. C'est ce qui justifie encore...
Pardon, on donne un mandat et ensuite on oublie même l'intéressé en prison.
L'intéressé est souvent oublié au niveau de la prison et du coup où certains même peuvent passer des années là-bas sans qu'ils ne soient présentés à un juge, ce qui est extrêmement, extrêmement compliqué et qui viole le droit de ces personnes-là. Donc ce sont des pratiques qui ont cours et nous pensons que les nouvelles mesures qui sont actuellement vont permettre à l'administration de la justice de corriger ces imperfections-là. Sinon, alors nous constatons qu'effectivement, au niveau de chaque prison, il y a un engorgement. Et ces engorgements ne peuvent s'expliquer que par le décernement des mandats. Et le nombre de cas qui sont jugés sont nettement inférieurs par rapport aux cas de personnes qui attendent d'être comparées devant un juge afin de connaître leur sort.
Et la durée, 3 mois, est-ce que vous pensez que c'est acceptable?
Bon, si ça peut permettre de régler le problème, on peut le penser comme ça. Mais si on respectait déjà le code de la procédure pénale qui décline lorsqu'un mandat est décerné pour un cas d'infraction correctionnelle, la durée est établie. Pour un cas criminel, la durée est établie. Mais il se trouve que tout cela n'est pas strictement respecté. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'on constate que certains se trouvent en dépassement de délai de détention au niveau des prisons.
Alors, pour rappeler, les juristes pourront rectifier, si je me trompe là-dessus, le mandat, c'est la décision que prennent les hommes de droit pour dire vous allez rester en prison pendant tel nombre de temps en attendant votre jugement. C'est bien cela, Moussa Guindo. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'accord avec les points de vue soulignés par M. Konaté et M. Touré concernant le mandat? Parce que eux, ils estiment en effet que les magistrats ont le mandat facile aujourd'hui.
Bon, je suis tombé de nuit, hein, parce qu'en réalité, il est bon de critiquer. Nous sommes là pour appliquer la loi. Et si on dénonce, quand on applique la loi, ou bien on viole la loi, ça annule la procédure. La réalité, c'est quoi? Les Bambara disent, Doni Ndongoma, quand on arrête, on dit on fait trop. Quand on libère, on dit on s'enrichit. Parce que pour eux, aujourd'hui, la liberté, comment on appelle, provisoire, bon, qu'on ne parle même pas, de la liberté tout court, que les juges prennent de l'argent avec les gens, on les libère. Bon, voilà, on entre les deux feux. Mais le plus important, c'est quoi? C'est de rester avec la loi. On vient de vous dire, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, ils disent qu'il y a des délais pour les crimes, il y a des délais pour les affaires correctionnelles. Le délai, c'est quoi? C'est mener des enquêtes. Si c'est un cas criminel, le juge a 3 ans ferme pour mener ses enquêtes. Arrivé à 3 ans avant, il prend une ordonnance pour demander de prolonger pour 3 ans encore, 6 ans. Ça dit que c'est un cas criminel. Dès qu'on envoie l'ordonnance au niveau de la Cour suprême pour le jugement devant les cours d'assises, même si on vous condamne pour 7 ans de prison, les 6 ans qu'ils ont fait en prison est déduit. Et au niveau de la procédure correctionnelle, c'est la même chose. Ça dit que c'est très clair à ce niveau. On a parlé de désengorgement, mais il n'y a même pas longtemps, il y a eu, une dérogation. Le président de la République a pris son bic. Il a cassé toutes les procédures. En libérant les gens, qu'on appelle ça quoi? C'est de prendre une décision juridique pour élargir les prisonniers. Le président le fait chaque fois. Le 22 septembre, la fin de l'année, je ne sais pas comment on appelle, d'abord jargon, les droits de l'homme. Tu vois, bon, tout ça, ça désengorge. Mais aujourd'hui, l'amnistie et puis d'autres, et ils ont parlé de modèle, la saisine même de tribunal correctionnel. Il y a 5 cas, mon jeune frère vient de parler de la comparution immédiate, il y a 5 cas pour saisir la chambre correctionnelle. C'est quoi? Ça, c'est la citation directe, flagrant délit et la comparution immédiate. Ça se fait chaque fois dans nos tribunaux. Et le nombre de délinquants au niveau des prisons. Et passez-vous dans les tribunaux, chaque lundi ou chaque mardi, ils viennent en centaines pour être jugés et libérés, où on met le sursis.
Mais il semblerait que vous oubliez souvent certains prisonniers.
Mais j'ai dit, ça annule la procédure, ça peut se faire. Mais dans le cas, il faut le dénoncer. Le registre, il est là en prison, pourquoi? C'est pour rappeler, il y a des feuilles d'audience. Il y a des feuilles de coups. Quand vous partez en prison aujourd'hui, on vous amène avec un papier pour dire tel va rester pour telle date.
Et c'est enregistré. L'annulation de la procédure, si c'est le cas, suffit-elle? Est-ce que les magistrats,
ça suffit,
ceux
les
qui
avocats
ont pris
sont
ces décisions, sont sanctionnés?
Mais ça vaut le coup, l'instruction est là.
Ça vaut le coup, mais ce n'est pas le cas.
Nous, c'est le cas. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas compter. Donnez-moi des chiffres, je dis qu'il n'a pas été fait. Et puis un juge même qui met quelqu'un en prison sur défaut, il ne peut pas dormir. Parce que lui-même, il a violé la loi. Et l'instruction est là. C'est pour vous dire que personne ne rentre en prison sans un papier. Personne ne sort sans un papier. Et ça, c'est dans le français facile. C'est pour vous dire que s'il y a un problème, on peut dénoncer. Moi, au moment que j'étais en stage, j'ai vu une fois le président du tribunal, après jugement, a libéré un détenu. Il allait s'asseoir, on a miloté directement. Mais moi, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Il est libre ou il n'est pas libre? J'étais stagiaire, le président m'a dit, non, c'est comme ça. J'ai dit, non, il faut arrêter. Et j'ai mis dans mon rapport, dès que vous êtes libre, c'est fini. Mais on vous garde, on vous amène jusqu'en prison pour vous libérer devant votre famille. Bon, c'est des cas qui peuvent être dénoncés et qui peuvent être... Mais ça n'empêche pas la justice de faire son travail. Et la réalité aujourd'hui, si les prisons sont remplies, c'est qu'il y a trop de délinquants. Il faut qu'on se lève pour dire non. Et les mandats faciles, c'est des appréciations qui n'ont pas de sens. Parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un de faire un travail et après de lui dire d'arrêter. Le juge, il est là pour ça. Mais maintenant, chaque mandat est justifié. Moi, je ne suis pas Moussa Guino. Je me fais le mot matin, j'arrête ma mata parce que je suis Moussa Guino. Non, je le fais parce que le peuple m'a donné un pouvoir, tu sais quoi, c'est d'appliquer la loi. Si réellement, M. Mamata a violé la loi. Et son droit, c'est de contester. Mais de dire d'aller en prison, ce n'est pas de violer les indices. Et effectivement, c'est pour le faire dans les cas criminels. C'est très difficile.
Alors, les témoins sont menacés. La liberté d'expression, de quoi voilà. S'agit-il?
La liberté d'expression, c'est avoir des limites. C'est avoir des limites, ça veut dire quoi? Vous êtes journaliste, vous utilisez tout pour dire tout, mais vous restez dans le cadre de la loi. C'est pourquoi, quand vous disiez à quelqu'un, vous l'insultez, en tant que journaliste, ce n'est plus la liberté d'expression. Quand vous incitez les gens à aller vers la violence, ou bien de faire du racisme, l'apologie des crimes, ou bien empêcher les gens d'appliquer leur religion, vous quittez la liberté d'expression. C'est très clair. Quand vous glissez, vous violez la loi. Quand vous restez dans le cadre de l'expression, pas de diffamation, il n'y a pas de problème. Avant, avec les diffamations, ça c'était dans le code de la presse. Mais aujourd'hui, avec la loi sur la cybercriminalité, quand vous montez sur les réseaux, vous insultez quelqu'un, le juge est capable de vous arrêter. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Et c'est un grand marché, c'est une grande zone de criminalité, il faut arrêter.
– Cette liberté d'expression, M. Touré, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, elle est suffisamment comprise par les Maliens ?–
Pas du tout, c'est ce qui justifie même le nombre d'arrestations, d'interpellations. Il faut encore de la sensibilisation, il faut de la retenue, il faut que les citoyens comprennent que l'espace réseaux sociaux n'est pas fait pour dire certaines choses. C'est important. C'est primordial même du moment où nous sommes dans une société, comme j'ai eu à le dire, on a le droit de faire. Ce droit aussi a des limites. Il faut toujours mettre en tête que en disant d'autres choses, on peut glisser dans la violation. Donc, il faut, comme la loi est venue il y a 2 ans environ, il faut beaucoup de sensibilisation.
Justement, c'est de dire qu'il y a 2 ans, les gens pouvaient dire des choses sur les réseaux sociaux et même insulter sans s'inquiéter. Mais depuis 2 ans, cela n'est plus possible parce qu'il y a cette loi qui existe.
Exactement.
Est-ce que vous pensez que les autorités ont sensibilisé, expliqué à la population que désormais, attention, il y a des mesures qui sont prises, notamment cette loi, pour qu'il n'y ait plus ces comportements-là constatés sur les réseaux sociaux?
Les autorités judiciaires, oui. À travers le frère, à travers les 2 syndicats de la magistrature, l'ont fait. Maintenant, à un autre niveau, ministère de la Communication ou de la Justice, ça, c'est un peu timide. Donc, il faut qu'eux aussi, ils s'impliquent. Il faut que d'autres acteurs s'impliquent. Parce que quand on voit la population majoritairement analphabète, nos textes, tout est reproduit en français. C'est difficile. Donc, il faut essayer de tenir cette campagne-là, s'il le faut, dans nos langues, avec des sketchs, un peu en diversifiant, c'est-à-dire les canons, les méthodes de communication, pour que vraiment les gens comprennent de quoi il s'agit. Donc, l'administration judiciaire, elle fait de son mieux dans ce sens, et même certains procureurs n'hésitent pas à sortir après avoir rendu des décisions de mettre cette pédagogie d'explication pour que les gens comprennent, pour que les gens ne tombent pas dans ces travers-là.
Alors, M. Konaté, aujourd'hui, est-ce que ces différentes arrestations également de leurs effets ne poussent pas aux gens d'avoir désormais peur de s'exprimer?
Oui. Comme on dit, il est bon de parler, meilleur de se taire. On ne prendra pas quelqu'un parce qu'il s'est tué. Est-ce que vous comprenez? Alors, cette loi sur la cybercriminalité est intervenue et j'avoue, les gens ne sont pas vraiment informés. Et les gens apprennent à leur dépens quand ils ont affaire avec la justice en lien avec les propos qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux. si on essaie de voir de plus près, alors les gens en colère n'ont pas de limites. Et dans la situation générale que nous vivons, les Maliens qui ne sont pas de comme on appelle, du bord du pouvoir, sont en colère. Et ils pensent qu'ils peuvent exprimer leur colère par tous les moyens qui leur semblent bons. Et ils oublient qu'ils ont des limites à ne pas franchir. Alors, s'ils se laissent aller, guidés par l'instinct animal, entre guillemets, et forcément, il y a des déboires. Et c'est ce à quoi nous assistons à travers ces arrestations. Il y a une expression que mon frère a utilisée qui me paraît fondamentalement importante. Il faut vraiment de la pédagogie. Le tout emprisonnement n'est pas bon. Le tout emprisonnement n'est pas bon. Il faut faire en sorte que les gens qui comparaissent comprennent désormais que tout n'aurait pas permis et qu'ils doivent servir de leçon pour les autres. Mais ce travail de pédagogie, d'explication, de sensibilisation, j'avoue, fait défaut.
En la matière, quelle est la règle? Est-ce les autorités, les hommes de droit qui doivent expliquer cela aux populations ou est-ce que ce sont les citoyens qui doivent se lever, chercher à savoir?
Vous êtes d'accord avec moi que la loi sur la cybercriminalité est une nouvelle loi, une innovation que nous ne connaissions pas. Si une telle loi doit intervenir, il y a un travail en amont que les pouvoirs publics doivent faire. Et si la loi intervient, il y a un travail également que les pouvoirs publics doivent faire. Mais c'est dans l'affaire de l'autre là, comment on appelle, Baba Soura, je ne sais pas qui encore.
Diaba Soura,
qui a permis aux Maliens de comprendre que, il y a une telle loi qui incrimine désormais des comportements sur les réseaux sociaux. Donc après cet acte-là, les gens ont manifesté leur indignation. L'État devait saisir de cette opportunité pour expliquer davantage aux gens ce que c'est que la loi sur la cybercriminalité et quelles sont ses implications et comment on peut se faire prendre ou comment on peut ne pas se faire prendre. Ce travail n'a pas été fait. Et c'est ce qui est regrettable. Aujourd'hui, les gens sont interpellés. Les gens pensent qu'ils sont dans leur salon. Ils peuvent donner libre cours à leur liberté, dire tout ce qu'ils pensent. Mais ce qu'ils oublient, c'est que ce qu'ils disent dans leur chambre, c'est porté dehors, soit par leur volonté ou par la volonté d'autres personnes. Donc c'est ce qui fait aujourd'hui qu'il faut vraiment sensibiliser les gens pour que des limites qui sont établies ne soient pas franchies. Si on est dans une situation, si on doit continuer à arrêter, finalement, on n'aura pas de place pour les gens à la prison.
Regrettez-vous aussi, Moussa Guindo, cette explication de la loi qui n'a pas été suffisamment faite selon M. Konaté?
Effectivement, le mot-clé, c'est la pédagogie. Je suis d'accord avec les deux co-débatteurs. C'est une réalité. C'est comme toutes les lois. Et c'est dans tous les pays. Quand il y a une nouvelle loi, il faut sensibiliser, il faut informer. Voilà pourquoi on demande à nos députés élus, après la prise de la loi au niveau de l'Assemblée, de faire la restitution. Et maintenant, techniquement, c'est professionnel aussi d'aller vers ça. Et je l'ai dit, le SAM et le CILIMA ont organisé des ateliers pour informer même les magistrats d'abord sur cette loi. Et je pense que ça fait défaut. On doit continuer la sensibilisation. Et aujourd'hui, même on est en train de débattre aujourd'hui, c'est comme de la sensibilisation. Après deux ans, il faut que les gens se rendent compte qu'ils couraient un grand danger avec cette loi, ça va limiter. Et quand je prends un exemple, quelqu'un qui prend son petit téléphone, parce que le téléphone peut servir à tout, l'Internet peut servir à tout. Mais quand vous prenez votre téléphone pour faire du développement, pour faire du social, je pense qu'on doit vous applaudir. Mais quand vous prenez pour insulter les gens, imaginez-vous faire une vidéo, dire aux gens que je vais tuer un tel, ou bien un tel doit être assassiné. Mais là, c'est très grave. Voilà pourquoi nous avons des grandes oreilles pour écouter tout cela. Et je pense que même au niveau du parquet de la commune 4, ils ont leur page Facebook, ils expliquent chaque fois pédagogiquement pourquoi on a arrêté un tel et voilà des raisons. Et signé, ça c'est une première et ça doit être félicité. Et d'accord pour la pédagogie. Et aujourd'hui, les prisons aussi sont là pour éduquer. Ce n'est pas pour paniquer, pour faire la réinsertion. Parce qu'aujourd'hui, aller en prison, c'est un danger pour nos enfants, surtout pour nos jeunes, parce qu'on peut tout apprendre là-bas. Et ce n'est pas du gaieté du cœur qu'on envoie des gens en prison.
Dans cette loi, est-ce qu'elle prend seulement en compte les publications faites par les intéressés eux-mêmes sur les réseaux sociaux, ou même, par exemple, si vous dites quelque chose dans votre salon et qu'il y a quelqu'un qui a enregistré le son et publié sur les réseaux sociaux, ça également, ça peut être une raison d'arrestation.
Est une infraction. De piéger quelqu'un, c'est une infraction. Et en plus de ça, si vous vous amusez à faire sortir des propos sur la place publique, vous perturbez l'ordre public. Et le juge doit vous poursuivre. Et c'est dans ce cadre-là. C'est comme un couteau à double tranchant. Il faut faire extrêmement attention. Même de faire, de voir Touré, vous allez publier une photo, moi je capte la photo et je publie, je suis un complice.
Le droit d'image.
Voilà. Droit d'image. Voilà, c'est tellement colossal, je suis d'accord qu'on informe, qu'on explique. Et tous ceux qui vont en prison, tous ceux qui sont poursuivis, si je suis pas, même si on les condamne, c'est des sursis. On fait de la pédagogie. Et la chanteuse, comme on appelle, la petite là qui a été arrêtée, mais Faiza n'a jamais été en prison. Mais on l'a fait de la pédagogie. On l'a fait asseoir pour dire que ce n'est pas bon. Il y a d'autres d'artistes que je vais taire le nom, que je les ai soutenus. Mais ils ont été, comme on appelle, bien modélés pour dire arrêtez. Vous avez vu l'autre jour, le Progrès est parti dans une cérémonie pour remettre un prix à quelqu'un qui l'a emprisonné. C'est pour faire quoi? Ce sont nos enfants. Il faut les approcher, il faut les faire croire aujourd'hui et courir un danger. Et la loi, c'est un danger. Il faut faire extrêmement attention. Quand vous violez, vous partez en prison.
Et le juge ne peut rien. Vous parliez au début de justice sélective par rapport à ces différentes arrestations. Ibrahim Touré, est-ce que vous constatez une justice sélective?
À des niveaux, on pouvait penser cela. Vu le contexte actuel, eu égard au changement de régime, le pays étant ce qu'il est, divisé par la pensée collective de pro ou d'anti, de soutien ou d'anti-régime. Donc à un moment, on a vu des voix discordantes se faire arrêter. Et certains soutiens du régime étaient laissés, ils disaient tout. Mais dernièrement, on a vu qu'il y a une rectification. Donc à ce niveau, l'opinion était divisée sur la question et on est tombé dans la pensée de croire à une certaine sélectivité de la justice, quand bien même qu'il est établi que la justice est indépendante. Donc c'est difficile de parler de sélectivité pendant que la justice, en principe, est indépendante.
En principe,
parce que jusque-là, voilà, le flou est là, sauf si le frère nous éclaire davantage sur la question, parce qu'on ne peut que penser, mais on n'a pas de preuves, on n'a pas de preuves. Et en Afrique, pas qu'au Mali, en Afrique, on sait comment les pouvoirs publics influent sur la machine judiciaire. Donc ça, le frère va nous éclairer par rapport à ça.
Les magistrats semblent faire peur.
Non. Pour venir aujourd'hui ici, là, j'ai réfléchi deux fois.
Ah bon? Pour venir sur ce plateau, vous avez réfléchi deux fois. Pourquoi? Donc ça veut dire que le parquet de la commune 4 indique que l'objectif de ces arrestations, c'est la tranquillité de l'ordre public, mais en même temps, ces arrestations font peur même pour exprimer une opinion aujourd'hui.
Tout à fait, il faut le dire, la chose judiciaire, elle n'est pas facile à débattre aujourd'hui avec le temps qui court, parce que lorsqu'on voit la vague d'arrestations qui est là, ceux-là qui ne connaissent pas le mécanisme de fonctionnement de la justice peuvent vraiment avoir peur. Voilà. Et même les plus avertis que nous sommes nous-mêmes, souvent, il y a des cas où ça suscite des débats, où on n'est pas trop d'accord avec certaines procédures, mais le juge étant aussi un être humain, donc il peut se tromper. Tout n'est pas rose, des efforts sont en cours et voilà. Et opiner sur la question aussi, ça peut aider à corriger les insuffisances. Donc je pense qu'au moins, nous aussi, on contribue d'une façon ou d'une autre à ce que la justice soit vraiment ce que nous voulons.
Donc, les personnes arrêtées, si à la fin du jugement, pensent que leurs droits ont été violés, est-ce qu'ils peuvent aussi, elles peuvent aussi porter plainte, Konaté?
Bien sûr. D'abord, la procédure judiciaire est organisée de sorte que quand vous avez un premier jugement contre lequel vous n'êtes pas d'accord, vous relevez appel. Si au niveau de l'appel également, vous n'êtes pas d'accord, vous allez en cassation. C'est des voies qui sont indiquées pour contester une décision de justice. Maintenant, c'est sur la base d'une plainte, une dénonciation que vous avez fait l'objet de jugement. Si alors le tribunal vous blanchit, vous avez la latitude de vous retenir contre cela qui vous a calomnié devant la justice. Maintenant, si c'est le procureur également, je pense qu'il y a un mécanisme qui permet d'attraire l'État pour dysfonctionnement du service public de la justice. Ce sont des mécanismes qui permettent de corriger des imperfections ou des lacunes que nous constatons. Mais les gens ont tellement peur aujourd'hui qu'ils ne peuvent même pas exercer ces différentes voies de recours qui sont à leur disposition. C'est ça aussi l'inconvénient. Toujours, ça renvoie à la question de connaissance des mécanismes, de comprendre le fonctionnement du système. Aujourd'hui, la langue de communication, c'est le français. Hein, qu'on soit homme intellectuel ou que ce soit homme de la rue, chacun tente avec le style qui lui est propre de parler français. Mais le jugement est rendu en français. Et celui-là qui est là n'est jamais parti à l'école. L'avocat qui l'accompagne écoute et fait la plaidoirie. Après, il dit « Ah, ou yanyangi, ou bien ou manyangi », le débat s'arrête là. Bon, ça n'aide pas la personne ou le justiciable de comprendre effectivement tout ce qui s'est passé, étant donné que tout le cheminement du débat, il n'a pas pris part, parce qu'il n'a pas saisi un seul mot qui le concerne. C'est comme ce que disait mon frère pour dire que quelqu'un a été taxé de délinquant primaire. Il a dit non, il n'est pas le premier délinquant de tout le Mali. Est-ce que vous comprenez? Ça dénote que dans le jugement aussi, il faut permettre aux gens de s'exprimer dans les langues qui leur est propre.
Est-ce que cela est possible?
C'est possible, c'est possible.
Mais est-ce que ça s'est fait?
Ça doit se faire.
Mais moi, est-ce le cas?
J'ai pris l'initiative. J'explique la procédure en Bambara sur des plateaux. Même aujourd'hui, ce débat-là, on devait l'être en Bambara.
Mais dans les tribunaux, est-ce que ça se fait?
Ça se fait parce qu'il y a un traducteur. Il y a un traducteur qui traduit souvent de français en Bambara, souvent de Peul en Bambara. Quand vous partez vers Mopti, quand vous partez vers Kaï, c'est comme ça. Mais la réalité, je suis parfaitement d'accord avec mon voisin. Si aujourd'hui, nos associations chargées des droits de l'homme pensent à ça, non, ça nous met en l'aise. Moi, j'ai vu à son temps, il y a un procureur qui demandait de donner le temps aux avocats et aux procureurs de faire leur réquisitoire en Bambara. Et c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit quelqu'un est un délinquant primaire ou quelqu'un qui a volé, abus de confiance, se demande ça veut dire quoi? Kawal Fenta Mintitaï, qui dénonce Kawal Fenta qui est le vol. Bon, maintenant, quand on rentre dans le moment, ça facilite la tâche. Mais l'article de la sensibilisation doit continuer.
Et il nous reste
même
trois
quand
minutes,
tu vois dans nos textes aujourd'hui, on nous demande d'aller vers ça, oui.
Apparemment, vous faites peur aujourd'hui parce que M. Touré témoignait même qu'avant de venir sur ce plateau, il a réfléchi, il s'est demandé est-ce qu'il doit venir sur ce plateau pour donner son opinion. Donc, est-ce que cette justice doit, à travers ces arrestations, faire peur aux Maliens lambda?
Ça a été dit, si nous sommes des êtres humains. Sous nos robes, là, c'est un cœur humain qui est là. Mais la réalité, c'est le travail. Si on y a une loi, il faut respecter. Et nous sommes chargés de respecter la loi. Mais on ne doit pas faire peur. On doit pas faire peur. On doit apaiser. On doit sensibiliser. On doit faire de la pédagogie pour qu'au moins les gens puissent connaître leurs droits et respecter leurs droits.
On doit le faire. Et allez-vous le faire?
Nous allons le faire avec l'État. Parce que je dis nous, je parle des syndicats. Et ce travail a commencé. La réalité, la justice doit apaiser. Et la justice doit éduquer. Et la justice doit orienter. C'est ça notre objectif.
Qu'est-ce que les citoyens doivent faire aujourd'hui pour contribuer à cette tranquillité de l'ordre public, mais également permettre à ce que ces arrestations qui sont faites puissent être faites dans le respect de la loi?
Bon, les citoyens, ce qu'il est, on est plusieurs et variés. Chacun a sa façon, chacun a son éducation. Le conseil le plus probant, on voit généralement à l'endroit de la jeunesse. C'est elle qui utilise fréquemment ses réseaux. C'est de veiller à ne pas tout reproduire sur les canaux. De veiller à ne pas dire tout. De veiller à ne même pas utiliser des contenus qui peuvent être dangereux pour eux-mêmes. Donc il faut que eux-mêmes comprennent cela, qu'aujourd'hui, il y a un encadrement juridique qui est là, de s'intéresser s'il le faut au texte, à défaut de demander aux sachants.
Merci. Nous aurons d'autres occasions pour revenir sur ce débat en français, mais ça se fera également en langue nationale bamanankan. Si nos trois invités sont disponibles, on le fera avec eux pour sensibiliser la population sur les règles juridiques. Merci à nos trois invités, Moussa Guindo, magistrat, Brahima Konaté de l'Association malienne de défense des droits de l'homme, Ibrahim Ben Mamata Touré, juriste. À la régie vidéo et audio, Mamadou Ouattara et Gagné Kanté. Je suis Mouhamadou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Merci à toutes et à tous et bonne soirée.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.
Chien Nibiri.
Halou Gmoun.
Chien Nibiri.
Sigi Kafoba.